et boum,
les détricoteuses.
Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai.
Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins, quoi.
Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
Les Détricoteuses.
Une émission menstruelle
et participative.
Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois.
À 19h sur JetFM 91.2.
C'est un attentat radiophonique.
Bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur JetFM dans les Détricoteuses. Chaque premier et troisième vendredi du mois, on détricote les rapports de genre à partir d'un mot thématique. Les deux autres vendredis, on diffuse des créations ou documentaires qu'on a envie de partager avec vous. Ce mois-ci, on vous propose de découvrir la série documentaire « Mais c'était un bon père » de Thomas Belalfaoui, sur les conséquences des violences de son père envers sa mère. Écoutez tout de suite les trois premiers épisodes. Bonne écoute!
Mon père est mort et je dois vider son appartement. Dans le tiroir du salon, je retrouve une vieille cassette. Je la mets dans le caméscope et d'un coup, je suis projeté dans le passé. Je me revois il y a 20 ans dans ce même salon, avec mes parents, en train de souffler mes 4 bougies.
Et on soufflait les bougies.
En gros, une famille normale, quoi. Maintenant, c'est fini tout ça. Les funérailles se sont bien passées. Je suis soulagé. J'ai accompli mon devoir de bon fils. Mais il y a une pensée qui commence à m'obséder. J'ai encore du mal à me l'avouer, mais je dois bien me rendre à l'évidence. Je déteste mon père. Pourquoi est-ce que c'est si dur à dire? Pourquoi il m'a fallu attendre presque 30 ans et la mort de mon père pour m'autoriser enfin à le haïr.
Hop. Merci.
Enfant, je pense que j'en parlais pas du tout, sauf avec ma meilleure amie, à partir de 11 ans, où on pouvait se raconter tout, Marine. Et je pense que c'est la seule aussi qui comprenait ce que je racontais, peut-être parce que son père a été violent une fois. Et moi, mon objectif, c'était de partir le plus vite et le plus loin et le plus longtemps possible.
Pendant toute mon enfance, moi aussi, j'ai profité de chaque instant où mon père n'était pas là. Quand il était au travail, ou quand moi j'étais en vacances. Je l'ai vu frapper ma mère, l'insulter. J'ai entendu les coups et les cris quand j'étais allongée sur mon lit dans le noir. Et pour ça, je lui en voulais terriblement. Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Épisode 1. Séparer le mari du père.
Bah, bonsoir à toutes et tous. Ça va?
Ça va, oui.
Ça va très bien.
Depuis un an, je participe à un groupe de parole pour enfants co-victimes de violences conjugales. Il est organisé par l'association Elles Imaginent à Paris et animé par deux psychologues, Sonia Pinault et Alexia Bellu.
On parle plus souvent d'enfants témoins de violences conjugales. Qu'est-ce que vous pensez du terme co-victime ?
Moi, je trouve que justement le terme co-victime est hyper pertinent. Moi, c'est Luna. Et quand je l'ai découvert, vraiment, ça m'a fait... j'ai eu l'impression de vivre une révélation, quoi. Je pense qu'avant, sans forcément mettre les mots dessus, mais je me voyais plutôt comme, comme témoin. Et je me disais, ah, mais moi, c'est moins grave, etc. C'est pas comme ma mère, où là, c'était plus grave. Et du coup, je délégitimais presque ma souffrance, quoi.
En fait, ça permet de s'approprier son histoire. Moi, c'est Adèle. Même depuis que je suis dans le groupe, j'ai encore beaucoup de mal à dire que c'est moi qui... Enfin, je dis toujours que c'est ma mère qui a vécu ça et que du coup, nous, on la soutient dans ce truc. J'oublie qu'on a aussi baigné dedans, ma sœur et moi, etc. Mais de poser le mot dessus, ça aide à prendre conscience que non, on n'est pas en fait extérieur à cette histoire, mais qu'au final, on a bien pris part à fond.
Au fond, c'était un bon père. Un mari violent, mais un bon père. Il a jamais levé la main sur moi. Il me disait tout le temps « je t'aime ». Il rapportait l'argent à la maison. Les violences, c'était leurs histoires d'adultes, finalement. Ça me concernait pas. Il faut séparer le mari du père. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis longtemps raconté.
Moi, je trouve que le terme de co-victime, il est beaucoup plus approprié.
Moi, c'est Maya.
Témoin, ça fait vraiment extérieur à ce qui se passe. Je suis moi, je suis co-victime, je suis pas la personne qui a subi directement les violences conjugales, mais j'ai subi les violences conjugales là, à ma façon. Même dans un truc lambda du quotidien, c'est-à-dire un constat de voiture, un témoin, faut pas qu'il soit dans la voiture, quoi, alors que co-victime, il est dans la voiture, c'est juste qu'il conduit pas. Et donc pour moi, ça a toute son importance, ce terme-là, quoi.
Ouais, c'était vraiment un peu une révélation quand j'ai... Enfin, je rejoins ce que tu disais, Luna. Moi, c'est Thomas. Quand j'ai entendu ce mot... quand j'ai lu ce mot plutôt sur Internet, parce que c'était sur des sites Internet, c'est là que je me suis dit qu'il y avait un problème. Un problème me concernant. Avant ça, je voyais bien qu'il y avait un problème concernant ma mère, évidemment. Mais c'est ça qui m'a permis de réaliser que j'avais été du coup concernée par le problème. Ouais, ce mot, il a été hyper important. Et aussi d'un point de vue pratique, c'est un mot qui m'a permis de chercher, de nommer, de chercher des associations. Parce que sinon, il n'y a pas de mot-clé. Enfant témoin, ça ne renvoie pas à une nécessité de parole ou de thérapie ou autre.
Même là, en me réécoutant, je réalise que j'utilise tout le temps des euphémismes. Le problème, ça. Pourquoi est-ce que j'ai tellement de mal à mettre les pieds dans le plat ? À admettre que oui, c'est grave. Les violences de mon père, elles m'ont touché moi aussi. Et donc, que c'était peut-être pas un si bon père que ça.
Quelles sont les conséquences de cette exposition aux violences conjugales dans votre vie d'adulte aujourd'hui ?
Pendant vraiment longtemps, et encore, ça perdure, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait d'être au milieu d'un conflit ou de provoquer un conflit, encore pire. Parce que le fait d'entendre, par exemple, des personnes hausser le ton, surtout s'il s'agit d'hommes, c'est vraiment compliqué au niveau émotionnel parce que ça va avoir des conséquences somatiques immédiates, comme par exemple avoir le souffle coupé, se mettre en apnée, avoir tout à coup très, très chaud, en mode bouffée de chaleur, le corps raidi, etc. Avec la psychothérapie, ça m'a beaucoup aidé à gérer de plus en plus, on va dire, ce genre de situation. Mais c'est vrai que j'avais ou j'ai encore un peu tendance à être dans l'évitement par rapport à ça.
Merci. Attends, je me bouge.
Moi, vraiment, la conséquence à laquelle je pense immédiatement, et c'est le gros chantier actuel, c'est pas prendre le risque de la contrariété. Je sens que je me suis construite sur un truc où je préfère que ce soit lisse parce que j'ai besoin d'avoir des forces pour autre chose. Et heureusement, je suis en train de créer des petites expériences positives où je vois que il y a plein de fois où j'exprime un désaccord et où ça se passe très bien. Donc à chaque fois, c'est super agréable de l'expérimenter. Mais pour l'instant, je le teste vraiment quand je suis dans des conditions optimales et que je connais les gens depuis super longtemps, etc. Donc même si... Enfin, je sais que les personnes que j'ai autour de moi aujourd'hui ne sont pas violentes, de ce que j'ai l'impression. Donc c'est pas la peur que ce soit exactement la même chose qui se produise, mais c'est comme si j'avais déjà, ça m'avait déjà tellement puisé d'énergie, ce niveau de colère-là que j'ai vécu, que la moindre expression d'une contrariété maintenant me coûte. Ça se traduit vraiment par une implosion, une mâchoire serrée constamment... Donc en fait, c'est de la survie constante, enfin une hypervigilance qui crée un sentiment de jamais être trop connecté à soi, mais plus connecté à l'autre pour être sûr. Enfin voilà, c'est un truc un peu comme ça. Moi, je me rends compte que je suis vraiment en train de me reconnecter à ce que je veux, ce que je veux pas, et ce que j'aime pas, quoi.
Dès que je flaire le début d'un conflit, je passe en mode survie. Comme si c'était de la violence. Pourtant, en théorie, je connais bien la différence entre les deux. Ça dépend si on est tous les deux à égalité, ou si c'est toujours le même qui domine. Ça dépend si on veut vraiment trouver une solution, ou juste écraser l'autre. Mais je crois que mon cerveau, il a fusionné les deux. Je ressens le conflit comme de la violence. Alors, pour me protéger, j'évite de dire ce que je pense.
Je peux aussi, y a personne. Évidemment, je réfléchis à ce que je vais dire en t'écoutant, Adèle. Et la première chose, je voulais commencer par... Je ne veux pas faire ma drama queen, mais... Et c'est le pire, mais bon, c'est l'histoire. Je pense que c'est une des conséquences de passer mon temps à m'excuser et à pas être sûre de ce que je ressens. Et en fait, je voulais m'excuser avant de dire que je pense que les conséquences, elles sont immenses. Et c'est hyper dur. Ouais, ma spécialité, c'est la fuite des conflits. Je suis terrorisée à l'idée du moindre conflit. Et dès qu'une personne élève le ton... C'est une catastrophe pour moi, et ça va pas du tout en s'améliorant, pour le coup. On se blinde pas, comme on me l'a régulièrement demandé. À chaque fois, j'ai des conséquences somatiques. Il y a pas longtemps, mon dos, il s'est bloqué, et puis je viens de passer 2 semaines épuisée. Et pareil, ça fait pas très longtemps, j'allais dire que je me fais violence, que je me force à essayer de dire ce que je pense, parce que je suis la reine de « Non, mais comme vous voulez. Ouais, on fait ce que vous voulez. Non, mais tout me va. » Ben non, tout me va pas, en fait. Des fois, j'ai un avis sur le sujet.
J'ai un tic de langage. Je termine toutes mes phrases par « enfin bon, bref ». C'est peut-être anecdotique, mais ça dit comment je me mets au second plan. Comme si ça ne valait pas le coup de dire ce que je pense, ce que je ressens. En réalité, c'est même pire que ça. C'est que je ne sais même pas vraiment ce que je ressens.
Récemment, j'ai essayé de faire des ateliers d'écriture ou des choses où il y a un peu d'introspection, etc. Ça m'arrive vraiment très souvent de complètement sécher parce que ouais, je ressens vraiment cette sorte de déconnexion où on me dit « réfléchissez à un souvenir d'une joie intense » et en fait, c'est hyper perturbant de ne pas trouver et au fond de moi, je sais qu'il y a plein de moments où j'ai ressenti de la joie intense, mais ça s'est complètement estompé, que ce soit il y a un an ou il y a 10 ans. Et du coup, je ressens pas du tout le fait que c'est dur pour moi de me replonger dans le passé, mais c'est plus que ça me semble impossible et que c'est un peu flippant. J'espère que c'était pas la dernière phrase du podcast.
La première fois que je vais voir une psy, c'est après la mort de mon père. Elle me demande « Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion ?» Et là, c'est le vide total. Je passe en revue toutes les émotions possibles dans ma tête. J'essaye de trouver la bonne réponse, de faire le bon élève. Mais en vrai, ce que je ressens, j'en sais trop rien.
Je crois que c'est aussi le propre du traumatisme de venir faire effraction, de venir faire rupture. Et du coup, ça entrave les liens aux autres, les liens à soi, à son corps, à son histoire, à sa mémoire. Et du coup, on peut se retrouver comme ça dans des vides, dans des moments de trous. Je trouve que c'est très propre aux conséquences psychotraumatiques des violences.
En plus, j'ai trop envie du chocolat, mais j'ose pas faire du bruit. De vous écouter, ça m'a rappelé deux conséquences importantes qui finalement sont liées. L'année dernière, j'étais à une soirée karaoké dans un café d'une amie. Et il y a un des voisins qui était très en colère parce qu'on faisait trop de bruit. Et il a débarqué dans le café sans prévenir, et il a hurlé, et il a pris les micros et il est parti. Et moi, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai un trou de mémoire de plusieurs heures. Je dissocie complètement. Je disparais. Ça a été hyper dur, surtout pour l'amie qui m'accompagnait, parce qu'elle a pas... Elle m'a même conseillé d'aller à l'hôpital. Ça m'a envoyé très loin. Et du coup, ça m'a amené à la deuxième conséquence que j'ai comprise ici. C'est les trous de mémoire. Je me souviens de choses qui me sont arrivées précises, mais pas de ce qui arrivait à mon frère et à ma sœur, alors qu'ils ont vécu la même chose. Et puis des trous d'années, des trous de mois, un ami qui me dit « Ah, tu te souviens quand tu es venu te voir dans telle ville et tout ?» Rien, rien. On peut avoir une discussion hyper importante, hyper émouvante, hyper sérieuse, surtout si on me raconte des choses violentes. Je suis très à l'écoute et honoré qu'on me fasse confiance. Par contre, je peux tout oublier, quoi. Le lendemain. Et c'est hyper dur. Et j'appelle ça maintenant mon Alzheimer à moi. Au moins, je sais d'où ça vient. Ce qui est plus facile pour l'accepter et ce qui me permet maintenant de l'expliquer à mon entourage qui se vexe pas. C'est une conséquence qui est hyper dure et qui provoque une grande colère chez moi.
Ma mère est morte quand j'avais 13 ans. Rien à voir avec mon père. Elle était malade. Enfin, peut-être que sa maladie était liée à sa dépression, qui était liée aux violences. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. En tout cas, mon père ne l'a pas tué. Mais ça aurait pu. Et à chaque crise, c'est de ça que j'avais peur.
C'était la première fois que je réhabitais avec un homme depuis que j'avais quitté le foyer de mon père. Je voulais ranger la vaisselle qui séchait, enfin les casseroles qui séchaient, et mon ex était dans le salon. Et en enlevant les casseroles, il y en a une ou deux qui tombent par terre, et là, énorme tachycardie de « je vais me faire défoncer ». Enfin, j'attendais à ce que dans la foulée, il y ait quelqu'un qui me gueule dessus. Du coup, j'ai vraiment senti physiquement, tout s'est effondré, ça a fait un gros boucan. Après, il est venu, il m'a dit « Pourquoi tu me réponds pas ?» Et en fait, j'avais même pas entendu qu'il m'avait dit « Est-ce que tout va bien ?» Ça se trouve, c'est juste physiquement, j'ai pas entendu parce qu'il y avait toutes les casseroles qui s'effondraient. Mais je lui ai dit « Ah non, j'ai pas du tout entendu. » Il a vu mon état de stress Et ça fait partie à la fois des choses qui m'ont dit « Putain, ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas la même réaction, déjà. » Et en même temps, de me dire « Putain, en fait, ça va pas si ça te fait encore ça. »
Quand il y a trop de tension, ça fait sauter le disjoncteur. Sur le moment, c'est une bonne chose, ça évite l'incendie. Mais à long terme, c'est pas terrible. Si on ne règle pas le problème, on va rester dans le noir. Eh bien, quand le stress est trop fort, notre cerveau aussi, il disjoncte. Il nous coupe de nos émotions pour nous protéger. C'est la dissociation. C'est comme ça qu'à la longue, j'ai fini par être déconnecté de mes émotions. Et en plus, je me disais que ce que je ressentais, c'était pas vraiment important, puisque l'essentiel, c'était de protéger ma mère. C'est une inversion totale des rôles, qu'on appelle la parentification. Au lieu d'être protégée, c'est moi qui protège ma mère.
J'aimerais bien rebondir sur ça. L'idée de protection, parce que du coup, c'est un terme que je connaissais pas du tout. Au départ, j'étais vraiment dans l'idée de porter ma mère à bout de bras, c'est-à-dire de... Moi, je mettais le mot « prendre soin », mais en fait, le mot « protection », il va aussi très bien, il se cale bien, en fait. Et jusqu'au moment où, en fait, ça épuise, et du coup, bah, en fait, on est obligé de faire le choix de se protéger. Pour le coup, je me suis très éloignée, j'ai changé de continent, mais c'est ça qui m'a aidée. En fait, quand je suis revenue, j'étais réellement en position de soutenir, mais en sachant mettre une distance, parce que du coup, en étant baignée dedans, on peut pas mettre de distance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi. Et oui, du coup, en tant qu'enfant co-victime, on est amené à protéger ses parents, qui n'est pas de base le rôle d'un enfant. Déjà, à partir de là, c'est pas normal.
Je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous avez dit, notamment l'évitement des conflits. J'ai pas envie de contredire les gens par peur, je pense que, et notamment quand c'est des amis proches, comme tu disais, par peur qu'ils veulent plus être amis avec moi, simplement, je pense. Je pense que c'est ça que je me dis, en fait, c'est que si jamais je dis pas ce qu'il faut, et ben, je vais être rejetée. Et d'un point de vue concret, effectivement, je supporte pas les cris, que ce soit un conflit ou juste des gens dans la rue, ou même quand il y a un objet qui tombe ou quelque chose. Ouais, je pense que j'ai développé une phobie des bruits soudains ou des cris. Quand ça arrive, bah, je me retrouve en apnée, comme tu disais. Et ça, je m'en suis rendu compte très tard, en fait, parce que justement, j'étais coupée des ressentis de mon corps pendant longtemps, et je le suis toujours en partie, je pense. Et la dernière chose, c'est, des conséquences plus, par exemple, sur le fait d'avoir peur dans le noir. Pendant longtemps, j'ai eu ça, et je l'ai encore toujours, un peu, quand je suis seule dans une pièce noire. Vraisemblablement, ça me ramène, quand j'étais enfant, dans la chambre où j'entendais les violences sans les voir. Puis la dernière conséquence, je pense que c'était le fait de me ronger la peau des doigts. Et ça, c'était depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, ça a à peu près disparu, mais ça reste un baromètre pour moi de quand ça va pas, en fait. C'est presque pratique. Mais ouais, j'étais allée voir des dermatologues avec ma mère quand j'étais enfant. Voilà, évidemment, il n'y avait pas de cause dermatologique physique. Bon, revenons à ma question de départ. Pourquoi j'ai tant de mal à m'avouer que je déteste mon père? Eh bien là, ça fait déjà un début d'explication. Je suis persuadée que mon ressenti ne compte pas, voire j'ai même pas accès à mes émotions. Mais est-ce que tout ça, c'est pas un peu exagéré? Comment juste le fait d'assister à des violences a pu avoir un tel impact sur moi? Thank you.
Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent. Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya. Et merci à vous pour votre écoute. Mais c'était un bon père, une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Prochain épisode, le calme avant la tempête. Je suis sur l'estrade, dans la grande salle de l'école de musique. 20 ans plus tard, je suis émue par cette chanson. Parce que, pendant tout ce temps, c'est exactement comme ça que j'ai raconté mon histoire. Tout était joie et bonheur, sauf pendant les crises. Ça, je m'en souviens très bien. J'avais hâte d'être adulte. D'échapper enfin à tout ça. Bon, c'est là que la chanson ne colle plus trop. Pour le coup, j'ai absolument aucune nostalgie de mon enfance. Parce qu'il n'y a pas de calme avant la tempête. Parce que juste la peur d'une tempête, elle détruit tous les moments de calme.
Je pense que je suis plus à l'aise quand il est posé, en fait. Enfin, quand tu poses le micro, sinon, tu sais, ça me fait... Je sais pas, il y a un truc qui me...
Oui, c'est vrai, comme t'es obligée d'avoir la prochaine.
Ouais, mais je vais essayer de faire comme ça, tu sais, quand tu le posais comme ça, j'étais plus à l'aise, quoi.
Oui, voilà. Je comprends.
Voilà.
Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Épisode 2. Le calme avant la tempête.
Très tôt dans l'enfance, il fallait trouver un peu des moyens de s'échapper, je dirais, de tout ça. Pour moi, c'était l'école, l'échappatoire. Et je dirais que l'émotion qui prédominait, c'était vraiment la peur en sa présence, mais même quand il n'était pas là, mais surtout en sa présence. Et quand il n'est pas là aussi, c'est pas forcément quand il est hors du domicile, mais ça peut être quand il est dans une autre pièce. Et que pour me soulager un petit peu, je vais parler avec, par exemple, ma mère de ce qui est dur, etc., à vivre avec lui, et je vais avoir peur qu'il arrive, par surprise, en fait. Donc voilà, c'est l'anticipation chronique, si je puis dire, qui était compliquée à gérer étant enfant.
Merci, Léa. La peur, ouais, ça me parle beaucoup. Je crois que c'est l'émotion qui est née en premier et qui a vraiment... Enfin, je crois que c'est vraiment le fil rouge, enfin, le truc qui s'est exprimé le plus fort jusqu'à aujourd'hui. Et... merci. On sentait qu'un rien le surmenait, enfin, le dépassait. Et c'était enfin, de la pure angoisse, mais qui ressortait vraiment comme un monstre. Et du coup, oui, ça pouvait être... En fait, tout ce qui pouvait perturber la manière dont il avait envisagé que les choses se passeraient.
Je suis seule, sur le flanc d'une montagne. J'entends le tonnerre. Et je sens les premières gouttes de pluie. Qu'est-ce que je fais ?
Est-ce que je descends en courant, au risque de glisser? Est-ce que j'essaye de m'abriter sous une paroi, au risque de prendre la foudre? Ou alors je me mets en boule et j'attends sous la pluie, au risque de finir en hypothermie. Le problème, c'est pas seulement la peur que je ressens, c'est l'impuissance. Je suis persuadée que je peux éviter la foudre, je fais tout pour me mettre à l'abri, alors qu'en fait, elle fera bien ce qu'elle veut. Elle frappera exactement là où elle le décidera, quand elle le décidera.
Mes parents, donc, ils ont divorcé quand j'avais 3 ans, donc très très tôt, on s'est retrouvés avec ma sœur à faire la garde alternée, à préparer nos affaires pour aller chez l'un chez l'autre. Tous les jeudis soirs, j'allais chez lui et dès mes 6 ans, de préparer mes affaires, je me rappelle que je me mettais dans un état de conscience hyper forte pour m'assurer de ne pas oublier une culotte ou une chaussette. Voilà, pour un peu sécuriser au maximum les potentielles crises de nerfs. J'ai cette image, ouais, dans la voiture, de l'apnée, ok, peut-être vaut mieux que je dise rien pour être sûre de ne pas dire des conneries. Sur quoi je vais pouvoir dire la vérité, sur quoi je ne vais pas pouvoir. Si je ne dis pas la vérité, qu'est-ce que je dis? Donc ça nous rajoutait une charge mentale assez dingue pour être sûr de ne pas rajouter des problèmes à notre mère, etc. Donc,
C'est l'amour de ma mère qui m'a permis de survivre, malgré la peur. Mais même ça, il me le refusait.
Il y avait de la jalousie envers moi, envers l'attention qu'elle avait pour moi et qu'elle n'avait plus pour lui, d'après lui. Et donc ça, c'était des déclencheurs de crise dont j'étais la cause, enfin dont j'avais l'impression d'être la cause à l'époque. Et donc je me sentais coupable de passer du temps avec ma mère et d'avoir une relation fusionnelle avec ma mère.
Encore aujourd'hui, je dis fusionnelle. Comme si, au fond, j'étais un peu d'accord avec lui, quand il disait que c'était trop, trop d'amour, trop proche. Comme si lui aussi avait bien droit à un peu d'affection de ma part. Mais enfin, quelle relation est-ce qu'on peut construire avec l'agresseur de sa mère?
J'ai eu longtemps peur, comme Luna en parlait. Mais en fait, quand je l'ai recroisé, ben en fait, il a vieilli. Enfin, je le trouvais vraiment, je vais pas dire incapable, mais pour le coup, c'est irrationnel. Mais je me disais, si j'ai besoin de me défendre, en fait, je l'écrabouille, quoi. C'est justement le fait que j'ai été confrontée à lui par surprise qui a fait que du coup, maintenant, j'ai plus cette peur de le croiser. Par contre, moi, j'ai coupé les ponts avec mon père, c'est-à-dire qu'il n'a pas mon numéro de téléphone. Si je le croise dans la rue, je ne lui dis pas bonjour, je ne tourne pas ma tête, je trace ma route.
Merci. Thomas, vous voulez partager ?
Ouais, on n'a jamais réussi à construire une relation. Moi, je faisais semblant, enfin, j'avais l'impression de jouer un rôle avec lui jusqu'à sa mort, en fait. Le rôle du bon fils, quoi, qui fait le minimum attendu de lui, de moi. C'est-à-dire aller le voir de temps en temps, mais en fait, lui, il était débordant de gestes d'affection et de paroles affectueuses et de « je suis la personne la plus importante pour lui », comme enfant, d'ailleurs enfant comme adulte. Ça me crispait complètement et j'avais... Évidemment, je ne lui rendais pas ses paroles, mais en plus, j'étais incapable d'émotions affectueuses à son égard.
Quand je suis en présence de mes parents, je suis à nouveau assignée à une place d'enfant, de laquelle j'ai beaucoup de mal à sortir. Et le père, comme je disais, j'ai encore ce sentiment de peur qui est hyper présent, hyper oppressant. Et là, par exemple, pour Noël, il disait « toi, tu t'assois là, toi, tu t'assois là ». Et j'ai esquivé, je voulais pas m'asseoir à côté de lui, je veux plus m'asseoir à côté de lui. Et il y a un moment, on a dû faire un selfie familial. D'être assise à côté de lui, c'était l'angoisse absolue et ça fonctionnait plus correctement dans mon cerveau. En plus, j'essayais quand même d'esquisser un sourire pour pas gâcher la photo. Comme toujours, pas gâcher l'ambiance, parce que finalement, c'est toujours moi qui gâchais l'ambiance.
Je me souviens que mon père me disait « Je veux que tu sois heureux ». C'est ironique quand on y pense. Comme s'il ne voyait pas que j'étais malheureux à cause de lui. Mais à l'époque, je le croyais. Et je faisais semblant d'être heureux. Un peu comme si c'était à lui de décider ce que je devais ressentir. Et je n'avais pas le droit à la tristesse, ni à la colère.
Tout ça, ça a fait que la colère est arrivée. J'étais sous l'emprise de mon père quand j'étais jeune, mais pour moi, c'était terminé. Et en fait, entre cette colère qui commençait à pointer le bout de son nez et les fois où je l'ai revue, du coup, l'année dernière, là, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était encore hyper présent. Dans la voiture, j'étais au volant. Et en fait, ça m'a fait des énormes flashbacks où il me tirait sur mon caouet pour me dire « Enlève ta veste, enlève ta veste, il fait chaud ». Et je me suis rendu compte que pareil, j'avais l'impression d'avoir 12 ans. Je lui ai dit non, je suis bien. La première fois, il tirait pas encore sur mon caouet. La deuxième fois, il me l'a redit en tirant dessus. Et je me rappelle que ça m'a fait cette sorte d'intrusion où j'avais l'impression qu'on était vraiment comme il y a 15 ans, où il devait décider à ma place de mes sensations de chaud et de froid. Donc ça a commencé à bien faire monter ma température d'ailleurs.
Je ne me demandais jamais ce que je ressentais, mais toujours ce que lui, il allait ressentir. Est-ce que ça allait le mettre en colère ou pas? Je n'existais plus vraiment en tant qu'individu. J'étais juste un prolongement de lui-même. Je n'étais plus moi, je faisais partie de lui.
Et deuxième action dans la même journée, où du coup, il y avait une copine de ma grand-mère qui m'offre des fleurs. Et en partant, il vient me susurrer à l'oreille, mais déjà ça physiquement, vous pouvez imaginer le niveau de tension. Il vient me susurrer à l'oreille, va remercier Lucienne. Non, va embrasser Lucienne. Et là, je me suis dit, mais putain, mais en fait, même à un enfant, faut pas lui demander d'aller embrasser un adulte. Mais là, à mon âge, qu'on soit encore là-dedans, en fait, ça venait s'accumuler à l'action juste précédente. Et ce qui a fait vraiment la goutte d'eau, toujours dans la même journée qui a été assez dense, c'est que on va au restaurant. Connaissant mon père, c'est du genre à aller chuchoter à l'oreille du bar ou du resto d'apporter des bougies. Du coup, j'ai pris mes précautions. Je lui ai dit, par contre, pas de bougies. J'y tiens vraiment pas. Et je le dis vraiment sur un ton très sérieux. Il m'a répondu, mais non, t'inquiète. Avec un sourire, je savais pas si ça voulait dire t'es con ou si ça voulait dire tu me connais, tu sais que ça va quand même arriver. Et du coup, ça a pas loupé. Je vois 15 minutes plus tard, fonce. Et j'ai vraiment cette sensation d'un truc qui fonce sur moi et qui vient m'agresser.
C'est tout ça, le contrôle coercitif. Des petites phrases, des petits riens, pour maintenir toujours une emprise. Si on prend un seul de ces petits riens, ça n'a pas de sens. On ne peut pas comprendre ce qui se passe.
Pour moi, c'était vraiment le résumé de toute mon histoire avec lui, de « je te pose des limites et tu les refuses ». Et ça, c'est un exemple de quand je le raconte à des gens, ils me disent « bah ça partait d'une bonne intention, ils voulaient t'apporter une bougie ». C'est hyper dur à décrire, parce que ça me refait cette sensation de, en plus avec le mouvement du mec qui arrive là, qui me voit m'effondrer, qui comprend pas pourquoi je réagis comme ça. Et ça me rappelle en fait les sensations de quand j'étais toute jeune et que je me disais, on va me prendre pour une capricieuse, quoi, pour de pleurer pour ça. Typiquement, bah, en partant de ce restaurant, la Lucienne en question est venue me dire, il faut que tu te reposes comme les enfants qui pleurent quand ils sont fatigués. Donc vraiment, j'en pouvais plus. Et depuis, il y a eu plein d'étapes où j'ai d'abord tenter la phase de le confronter à ce que j'ai vécu avec lui, lui exposer ma colère. Et du moment où j'ai compris qu'il niait tout et qu'il était exactement dans la même dynamique que 20 ans plus tôt, je me suis mise en mode économie d'énergie. Et du coup, j'ai coupé les ponts radicalement.
J'ai longtemps cru que c'était un bon père, parce qu'il m'aimait. Aujourd'hui, je crois que ce n'était pas de l'amour.
Ça m'a fait du bien de lire Bell Hooks il y a 2 semaines à propos d'amour, qui enfin pose justement le fait que ce n'est pas possible de faire cohabiter amour et violence, que c'est soit l'un soit l'autre. Et c'est vrai que j'ai baigné dans ce truc-là de... Il y a de la violence, mais il y a aussi de l'amour. Et même si ça débattre le truc très binaire de c'est ou l'un ou l'autre, moi, ça m'aide vachement à arrêter de relativiser du coup. Et à me dire, en fait, il y avait une intention d'amour pour moi, mais il n'y arrivait pas. Et il n'a pas réussi parce que c'est ça, il y avait de la violence. Et ça, j'ai essayé d'en parler avec ma mère, qui est encore un peu dubitative, et c'était dur à entendre parce que ses propres parents étaient violents avec elle et qu'elle ne veut pas entendre que ses propres parents ne l'ont pas aimée, ce que je comprends complètement, mais du coup, c'était intéressant de le poser sur le tapis.
Pour aimer quelqu'un, il faut d'abord accepter que c'est un être différent de soi. Pas une partie de soi-même. On ne peut pas aimer et posséder. Il n'y a pas d'amour possible dans la violence. Il n'y a pas de calme avant la tempête. Pourtant, c'est quand même cette histoire-là que je me suis raconté pendant 28 ans. Comment c'est possible? Alors oui, il y a le fait que je n'avais pas le droit d'exprimer mes émotions et que j'avais même du mal à les ressentir. Mais est-ce que ça suffit à tout expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai essayé d'en parler autour de moi? Quelles ont été les réactions des autres? Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent. Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya. Et merci à vous pour votre écoute. Mais c'était un bon père, une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Prochain épisode, quelqu'un de bien.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros.
Mon père,
vastes oiseaux des mers,
c'était un poète.
Qui suivent, indolents compagnons de voyage.
Il m'a transmis
les navires glissant sur les gouffres amers.
Son amour des belles lettres.
À peine les ont-ils déposés sur les planches que
ce jour-là,
le roi de l'azur,
j'étais à côté de lui
et honteux,
sur l'estrade.
Laisse piteusement leurs grandes ailes blanches
dans la salle de conférence.
Des avirons traîner à côté d'eux.
Entre chaque poème,
ce voyageur ailé,
je jouais un morceau de violon
comme il est gauche et veule
pour l'accompagner.
Lui naguère si beau qu'il est comique et laid.
J'aimais bien quand il déclamait des poésies.
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait.
Bon, c'est vrai. À chaque fois qu'il poussait un cri, j'étais en apnée. Mais je savais que c'était pour de faux. En public, ça ne pouvait pas vraiment dégénérer. Enfin, pas trop. Pas de coup, en tout cas.
Les faux prénoms, c'est quoi déjà?
Du coup, on va faire un tour. On va faire un tour.
Merci.
Moi, Maya.
Maya.
Moi déjà, Thomas.
Moi, j'ai gardé mon prénom.
Adèle.
Toi, c'était Adèle.
Oui.
Adèle. Adèle.
Merci.
Et moi, c'était Luna.
Ah, oui.
Voilà.
Et Marine.
Maya, Thomas, Adèle, Luna. Ok.
J'ai tout misé sur les colonies de vacances et puis après sur les échanges linguistiques et bah ça suffisait pas, ça fonctionnait pas et en seconde je suis partie 6 mois en Allemagne. Quand je suis revenue, les violences étaient encore plus fortes et du coup j'ai décidé de fuguer. Avant de fuguer, je suis allée voir le père d'une amie qui était un ami proche de mon père et mon parrain pour leur demander de l'aide et les deux ont eu la même réponse. Les deux m'ont pas cru. Je voyais dans leurs yeux qu'ils me croyaient, mais dans la réponse, ils voulaient pas me croire. Je me sens que un des amis de mon père là, a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit, mais je peux pas m'opposer à ton père. C'est quelqu'un de bien.
Un jour, une connaissance nous a dit, à ma mère et à moi, « J'espère qu'il sera comme son père. » Petit rire gêné. J'avais de la chance d'avoir un père si cultivé, si intelligent. Tout le monde lui trouvait plein de qualités, comme si son autre visage n'existait pas. Le visage qu'il nous réservait, à ma mère et à moi. Comment c'est possible? Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Épisode 3. Quelqu'un de bien.
Et j'ai fugué le plus discrètement du monde. J'ai pas prévenu même mes meilleurs amis parce que notamment l'amie la plus proche à ce moment-là venait d'apprendre que sa mère avait un grave cancer. Et donc j'ai même pas osé dire à cette amie que je suis gay parce que c'était trop violent à la maison. Le premier réflexe de mes parents quand ils ont compris que j'étais partie, c'était d'aller au lycée et d'aller attraper mes amis pour savoir où j'étais, quoi. Et pas forcément en mode sympa d'ailleurs, je pense. Et cette amie en particulier, alors qu'elle savait pas où j'étais et tout ça... Bah, elle m'a couverte, elle a menti et elle m'a protégée. Et ça m'a vachement émue et ça m'a permis de comprendre à ce moment-là qu'il n'y a pas d'échelle de souffrance. Et c'était hyper fort. Mais par contre, il y a une espèce de banalisation du mal, pour reprendre ce concept. Tous les adultes autour, quand même, enfin je comprends en vous écoutant, ils savaient tous pourquoi j'étais partie et... Et je me souviens de mon prof d'histoire qui est génial, qui m'a pris dans les bras devant tout le monde et qui m'a accueilli. Mais en fait, personne n'a parlé de pourquoi j'étais partie, quoi. Alors que tout le monde savait. Et mon parrain qui a convaincu mon père de ne pas m'accueillir violemment, bah, il m'a pas protégée par la suite, quoi.
Je n'ai pas beaucoup de souvenirs précis des crises. Mais je me rappelle cette scène. Je dois avoir 4 ans, je suis avec ma mère, à l'arrière du bus numéro 164. On est accroupis par terre, cachés pour que mon père ne puisse pas nous voir à travers la vitre. Ce jour-là, il était dans une rage folle. C'était pire que d'habitude. Il cassait tout, il menaçait ma mère, il fallait qu'on s'échappe. Elle lui a dit qu'on allait faire les courses et on est sorti. Mais il pouvait toujours avoir des doutes. Et si il comprenait qu'on avait fui, là, c'était fini pour nous. Bon, heureusement, il ne nous a pas suivis. Et au bout de 2 heures de stress, on est finalement arrivé chez ma tante paternelle, sain et sauf. On est resté 1 semaine chez elle. Elle a tout fait pour nous réconforter. Mais donc, elle savait. Ma mère lui a tout raconté, mais avec des euphémismes, pour ne pas dramatiser. Alors qu'est-ce qu'elle savait exactement? Quelle histoire elle se racontait? En tout cas, elle condamnait le comportement de mon père, mais elle faisait avec. C'était comme ça. C'était son grand frère. Il était un peu colérique, mais au fond, c'était quelqu'un de bien.
J'avais l'impression que tout le monde savait. Et en même temps, tout le monde savait ce qu'il avait envie de savoir. C'est-à-dire que personne ne veut trop en savoir parce que personne ne veut perturber son petit confort mental. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais du coup, si je parle de chez moi, je parle de chez les autres. Donc c'est problématique. Et puis, je disais rien, en fait, parce que c'est comme si c'était considéré comme normal. Donc, en fait, il y a quoi à dire, il n'y a rien à dire. Il y a aussi au niveau de l'éducation, le fait qu'il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas faire de problèmes, il ne faut pas mettre la honte sur la famille, parce qu'il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de dispute, on ne crie pas, les enfants aiment leurs parents, et un enfant il dit jamais non à ses parents, jamais, ça n'existe pas. Une femme, c'est pas qu'elle est soumise à son mari, mais c'est-à-dire qu'elle ne va pas le contredire publiquement, quoi. Ça lui foutrait la honte quand même. Donc toutes ces choses-là font que ça bloque forcément. Et ça bloque pendant longtemps. Donc ça, c'était pour les adultes. Et en ce qui concerne les personnes donc, qui sont de notre âge, donc du coup, pareil, c'est rigolo. Moi aussi, je vais parler du lycée. Parce que c'est là au moment où j'ai commencé à en parler, parce que je sentais que ma mère a été sur un pan où je pense qu'elle pensait de plus en plus à se séparer. Et j'en avais parlé à une amie, et en fait, sans évaluer le fait qu'elle était sur le même mode de fonctionnement chez elle, malgré qu'elle l'ait déjà laissé sous-entendre, mais c'est-à-dire que c'est ce qui faisait peut-être que moi je me sentais en confiance, mais j'avais pas imaginé le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'elle validerait ce genre de comportement. Voilà, donc la conversation s'est arrêtée là. Et puis après, il y a les amis qui écoutent, et puis en fait, je me souviens même pas de ce qu'ils ont répondu, mais je pense pas grand-chose, et puis qui n'ont plus jamais donné de nouvelles, donc du coup, bah forcément, ça donne plus trop envie de parler. Et voilà, je pense que tout ça, ça a un impact. Et je dirais même que plus on nous transmet un message de silence jeune, plus c'est compliqué après pour parler, parce qu'en fait, c'est ancré, quoi. Donc même si c'est une petite phrase ou un petit mot, ou même quelqu'un qui sous-entend qu'il a compris, bah ça évite de cristalliser la situation et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ça fera le petit bout de chemin qu'on se dira, bah en fait, mais c'est que ça quand on m'a dit ça en fait, bah oui, c'est ça. Ouais. T'as tout compris, t'as mis du temps et t'as compris. Ouais.
En fait, je crois que c'est assez simple. On ignore tout ce qu'on peut ignorer pour se raconter l'histoire la plus supportable. Mon autre tante, la sœur de ma mère, elle vivait aussi avec un mari violent. Donc, si jamais elle reconnaissait ouvertement ce que moi je vivais, alors elle ne pourrait plus fermer les yeux sur sa situation à elle. Et comme elle ne pouvait pas partir, eh bien, elle s'accrochait au déni pour survivre.
Par rapport à ma mère... j'ai quand même un filtre à mettre parce que je sais qu'elle peut pas recevoir tout ce que je vais dire parce qu'elle, elle est trop dans sa souffrance à elle. Donc si jamais je lui parle de quelque chose de quand on était plus jeune, donc parce que moi j'ai un frère, ou bien elle va être dans le déni, ou bien elle va me dire bah non mais c'était pas vraiment ça. Et au début j'étais un peu naïve, je croyais un peu. Enfin, on peut pas se dire que notre mère nous ment. Peut-être qu'elle me ment consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas voilà. Du coup j'ai ce filtre là de me dire bah en fait. Voilà, j'entretiens de bonnes relations, mais je garde une distance, voilà, même si elle est dans ma tête, mais je le sais, quoi. Voilà.
Si je peux rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'entourage qui relativise beaucoup ce que nous, on vit. Et ma mère était complètement dans ce rôle-là. Elle nous a beaucoup, beaucoup dit... que bon, notre père, il nous apportait beaucoup sur plein de choses sur lesquelles elle pouvait pas nous apporter. Donc c'était, même s'il avait ses défauts,
C'était chouette qu'il complète un peu l'éducation qu'elle peut ne pas nous donner, donc elle le valorisait énormément.
Je ne suis pas devenue comme mon père. Et c'est en bonne partie grâce à ma mère. Grâce à l'amour et à l'attention qu'elle m'a donnée. Mais je dois bien m'avouer une chose, même si je n'ai pas du tout envie de l'entendre. C'est que toutes ces petites phrases-là, « Ton père, c'est quelqu'un de cultivé. Il t'apprend plein de choses que moi, je ne pourrais pas te donner. Il rapporte l'argent à la maison. » Toutes ces phrases, c'est surtout ma mère qui me les disait. Elle voulait toujours que j'aie une bonne image de lui. Elle se disait pour se rassurer. Avec moi, il est horrible, mais au moins, c'est un bon père pour mon fils.
C'est venu très très tôt, en fait, parler avec ma mère pour comprendre ce qui se passait, en fait. Dès que j'étais enfant, je dirais, oui, même des souvenirs avant mes 4 ans, quoi. Parce que j'entendais, par exemple, j'avais déjà entendu un bruit de genre vaisselle cassée ou des choses comme ça. Bien sûr, ça me faisait peur, mais j'étais dans l'incompréhension totale aussi. Ça, j'ai toujours pu vraiment en discuter librement, quoi, de la situation avec ma mère, et c'était vraiment un énorme soutien. Avec mon frère aussi, on pouvait en discuter, et avec ma grand-mère aussi. J'ai rapidement aussi parlé à des amis proches au collège, quelques amis proches. J'avais peut-être peur quelque part qu'il me balance, entre guillemets, enfin, il balance mon histoire à je ne sais qui. Donc je taisais ça, mais en fait, quand j'étais au lycée, je me suis bien rendu compte que non, on n'allait pas me balancer à l'assistante sociale ou que sais-je, comme si en plus je faisais quelque chose de mal, quoi. Quand ma mère a demandé le divorce et que on est parti du domicile familial, on a pu être aidé par la famille d'une de mes amies d'enfance, et ça, c'était pour moi incroyable, quoi. Et c'est aussi en allant chez certains amis que je voyais bien que les parents ou le parent n'étaient pas violent, en fait. Et donc, l'enfant était détendu chez lui. Et je crois que les premières fois où je me suis rendu compte de ça, ça a été vraiment un déclic, parce que je voyais comment ça fonctionnait ailleurs. Et que, en fait, non, ailleurs, il n'y avait pas ça, en fait. J'ai pu voir que, il existait autre chose, et c'était possible d'être avec des adultes, et avec des adultes hommes, sans qu'il y ait des débordements, des cris, etc. Mais c'est vrai que par contre, je n'en parlais pas aux adultes extérieurs à ma famille, quoi. Que ce soit les profs ou psychologues scolaires, etc. Pour moi, c'était justement, c'est le tabou. Il ne faut surtout pas en parler parce que ça risque de créer des problèmes, de créer des problèmes à ma mère peut-être. Et puis, bien sûr, de déclencher la colère encore plus grande de mon père.
Imaginons un monde idéal. Un monde où j'aurais parlé, où ma mère aurait parlé, où tout le monde nous aurait écoutés, où ma mère aurait réussi à divorcer. Qui aurait eu ma garde? Probablement mon père. Il était fonctionnaire, alors que ma mère ne gagnait pas d'argent. Et il aurait fait bonne figure devant la juge. En fait, je n'en sais rien, mais le risque était trop grand. Être séparé de ma mère et vivre avec son agresseur, c'était inimaginable. Alors, à quoi bon parler?
Avec ma sœur, on en parlait, mais plus en mode comme les ados qui disent « Putain, t'as vu comme papa, il est chiant », mais pas du tout avec la conscience des choses. Jamais j'ai eu l'impression de lui en parler comme quelque chose de particulier, comme si ça avait été normalisé, un peu comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, je prends conscience maintenant que ma manière d'en parler, c'était que ma mère était malade. Donc, elle a eu sa fibromyalgie très tôt, mais qui initialement était que des problèmes de dos et qui s'est répandue d'année en année dans le corps. Et en fait, même moi, j'ai pris conscience il y a peu de temps d'à quel point c'était directement lié aux violences. Et du coup, je me cachais, enfin, mes meilleures copines de l'époque, c'était ça que je leur disais. C'était d'un côté, de manière très distincte, mon père autoritaire, et d'un autre, ma mère souffrante, mais sans aucun lien entre les deux. Donc, je crois que c'était ma manière d'en parler sans en parler, en quelque sorte.
Parfois, j'en parlais un peu, de mon mal-être d'enfant. À la fin des vacances, je disais à ma tante que je n'avais pas trop envie de retourner à la maison. Je faisais des dessins où on voyait que mon père était méchant. À l'époque, j'avais l'impression que c'était très clair. Et pour moi, c'était déjà énorme de dire ça. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte que c'était assez obscur. Surtout pour quelqu'un qui ne veut pas entendre. Pourtant, il aurait suffi d'une seule question bienveillante pour que j'en dise plus.
Je me souviens d'une chose, quand j'étais au lycée, j'écrivais des poèmes assez sombres, on va dire, qui expulsaient bien la rage que j'avais en moi, quoi. Et un jour, j'avais, dans le cadre d'une semaine artistique au lycée, j'avais pu exposer, en fait, dans un couloir, un poème que j'avais écrit. Alors, je l'ai fait en anonyme, mais pour moi, c'était énorme que des gens inconnus, ou des profs, etc., puissent lire ça. C'était incroyable et je me rappelle qu'il y avait un de mes profs, justement, je ne sais pas comment, mais en gros, je lui avais dit que c'était moi qui l'avais écrit. Et il m'avait félicité, il m'avait dit « mais c'est super d'afficher ça, etc. » Alors bon, c'était assez obscur, donc je ne sais pas s'il avait tout saisi, mais en tout cas, j'étais fière de moi quoi, de pouvoir faire ça. Et puis bon, mes amis savaient que c'était moi qui l'avais écrit, donc voilà, ils me disaient aussi « super, quoi, c'est bien !» Mais c'est vrai que ouais, pour le dire aux adultes, aux adultes extérieurs, on va dire, c'est vraiment venu à l'âge de 20 ans, je dirais, voilà. Avec la psychothérapie, quoi. Voilà.
Moi, j'ai vu une seule psy à ce moment-là. Enfin, quand j'étais jeune, en fait, c'est ma médecin généraliste qui connaissait ma mère depuis des années, donc qui était au courant de tout, qui, le jour où elle a vu que juste prononcer le mot « père » me faisait m'effondrer, m'a dit « allez voir la psy en face ». Et j'avais vu une psy dans le cliché du psy, toute molle, qui répondait pas à ce que je disais. Et du coup, ça avait confirmé ce que je craignais, c'est de parler sans avoir de retour face à ça. Enfin, c'était complètement tombé à l'eau. Et j'avoue que comme la seule personne qui était au courant vraiment de comment ça nous impactait, c'était ma mère, et qu'elle, elle avait pas l'énergie pour prendre à bras-le-corps notre... Enfin, en fait, elle prenait déjà à le corps plein de choses, donc de vraiment faire en sorte qu'on soit suivi thérapeutiquement, je pense que c'était trop. Du coup, j'ai jamais revu de psy.
J'ai rencontré une fois une psy scolaire. Ton histoire me faisait penser. J'avais presque oublié son existence. À la mort de ma mère, j'avais 13 ans. Je sais pas si les gens à l'école savaient en fait ce qui se passait chez nous, mais j'imagine que la perte d'un parent, ça devait être suffisant comme raison pour m'amener chez une psychologue. Et je crois que je lui ai dit que mon père était violent envers ma mère, mais qu'avec moi, il n'avait jamais levé la main sur moi, et qu'il était un super père et tout ça. Moi, j'étais justement dans ce discours de tout va bien. J'avais dit ça comme un fait, un peu de manière froide, disons analytique. Et je crois qu'elle a un peu rebondi dessus, mais pas beaucoup. Et puis surtout, ensuite, il s'est absolument rien passé. Et c'est, je pense, un peu ma seule rencontre avec une institution, puisqu'il n'y a pas eu de divorce. Et donc, pas de police, pas de justice.
Le poète est semblable au prince des nuées.
Comment faire ?
Qui hante la tempête et se rit de l'archer.
Pour briser le tabou.
Exilé sur le sol, au milieu des huées.
Pour en parler avec les bons mots.
Les ailes de géant.
Et pour être enfin entendu.
L'empêche de marcher.
Comment reconnecter avec mes émotions?
Charles Baudelaire.
Et arrêter de penser que c'était quand même quelqu'un de bien. À qui est-ce que je peux en parler pour ne plus me sentir coupable de le détester? Thank you. Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent. Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya. Et merci à vous pour votre écoute. Mais c'était un bon père, une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Prochain épisode, Je te crois.
C'était La fenêtre des détricoteuses. Retrouvez les deux autres épisodes de la série documentaire de Thomas Belalfaoui dans La fenêtre du 24 janvier. À bientôt!